Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler des manœuvres étrangères hostiles dans le champ informationnel et de la réponse de l'État français pour y faire face, j'ai le plaisir de recevoir le chef de Viginium, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, service interministériel qui dépend du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDSN, Marc-Antoine Briand. Enfin, vous n'êtes pas le SGDSN, vous êtes le chef de Viginium. Donc bonjour et bienvenue dans le collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors, d'abord, j'aurais aimé commencer juste par un effort de définition très simple, parce qu'on en reparlera, la question de la répartition des rôles qui fait quoi face aux manœuvres et aux ingérences étrangères, elle est centrale, mais, et ça va occuper, je pense, une bonne partie de notre discussion, mais pour commencer, en première approche et en une phrase, qu'est-ce que fait Viginium ?
Alors, la raison d'être de Viginium, c'est de protéger le débat public numérique français des ingérences étrangères. Voilà, en une phrase simple, la raison d'être du service, c'est celle-là. C'est un enjeu de protection.
Ok. Et du coup, depuis quand ? Donc, il y a tout un historique autour de Viginium qui est intéressant. C'est une agence qui est relativement neuve, qui a quelques années maintenant. Voilà, ça vient d'où, Viginium ?
Alors, si, comme je sais que ce magnifique podcast me laisse le temps de pouvoir vraiment parler, d'avoir le temps d'expliquer les choses, je vais peut-être revenir un peu à l'historique, puisque c'était le sens de votre question. L'histoire de Viginium, en fait, elle est très récente. Le service n'a même pas aujourd'hui 2 ans et demi d'existence. En revanche, la problématique de la lutte contre les manipulations de l'information, elle est un peu plus ancienne. Et je pense que la première prise de conscience que la France ne disposait pas probablement, on va dire, d'une capacité nationale qui était vraiment dédiée, elle remonte un peu loin, elle remonte à l'élection présidentielle de 2017 et la fameuse affaire des Macron Leaks, je pense que vous connaissez bien et que vos auditeurs aussi. Et à cette occasion-là, pour rappeler un peu l'histoire, c'est durant la campagne présidentielle, il y a une équipe de campagne en particulier qui a été visée par ce qu'on appelle un hack and leak, qui est une attaque cyber suivie d'une divulgation des données qui ont été volées. Et je pense que le président élu, puisque c'est lui qui a été victime de cette campagne, avait bien ancré en lui le souhait de pouvoir doter la France, puisqu'à l'époque, aucune capacité n'existait, donc de doter la France alors d'un service, d'une agence ou d'une capacité dédiée.
Une capacité dédiée à quoi ? Parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas vous qui allez les empêcher de se faire hacker. Ouais. C'est, par exemple, dans ce rôle-là, enfin dans ce contexte-là, si Viginium avait existé 5 ans plus tôt, quoi, en 2017, ça aurait été quoi votre rôle ?
Alors, je pense que le rôle de Viginium, nous, on est quand même bien bordé, et je pense que j'aurai l'occasion de pouvoir expliquer ça, à la lutte contre les manipulations de l'information, et plus précisément à ce qu'on appelle la détection, la caractérisation des ingérences numériques étrangères, qui sont une forme de manipulation de l'information. Donc, si en 2017, ce service avait existé, nous, on n'aurait bien évidemment pas du tout travaillé sur la première partie, qui est l'attaque cyber en soi. Là, on a une agence qui est comme un grand frère, qui est l'ANSI, et qui est plus en charge de la partie réponse défensive aux attaques cyber. Nous, on aurait davantage travaillé sur la partie leak, c'est-à-dire les phénomènes de divulgation sur les réseaux sociaux, notamment, de données qui ont été volées. Voilà, on aurait pu être en charge de détecter une campagne de divulgation qui cherche à amplifier la visibilité de ces contenus volés pour dénigrer un candidat, une entité particulière pendant une campagne électorale. On aurait pu avoir ce mandat-là.
Parce que c'est pas inintéressant de rappeler dans ce cas particulier que, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Alexis Rapin, que, dans une émission justement sur les ingérences étrangères, que, en fait, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas ces cadres-là, mais En fait, c'était pas des fausses informations, c'était pas une manipulation totale avec des documents forgés, etc., etc. C'était des mails essentiellement qui avaient été volés et qui ont été lâchés sur un certain nombre de sites et qui étaient donc librement téléchargeables. Alors, il y a le fait que c'est des informations privées qui n'avaient pas vocation à être divulguées. Et puis, il y avait aussi la question qui était la question du timing, c'est-à-dire à quel moment est-ce que ça a été lâché et dans quel but, le but étant de manière assez évidente de en tout cas, faire peser des doutes, etc., de pouvoir servir, disons, de réceptacle à un certain nombre de rumeurs autour de la campagne électorale de 2017. Donc voilà, c'est-à-dire, il y a la dimension volée, divulguée, etc., et puis il y a aussi la manière dont c'est fait et dont ça pèse sur le débat à ce moment-là, quoi.
Non, exactement. Alors, pour ce que moi, j'en ai lu dans la presse, hein, il y a bien, je crois, près de 20 000 mails qui ont été exfiltrés par les attaquants. Et lors de la divulgation de ce contenu-là, il y a, à ma connaissance, en tout cas de ce que j'ai pu en lire, un certain nombre de mails dont le contenu a été modifié volontairement. Donc on n'est pas seulement sur un vol de données, puis un leak, comme on a pu le connaître pour d'autres sujets. Là, on est sur une intention malveillante manifeste de jeter le discrédit ou de dénigrer un candidat ou une équipe de campagne. Et en tout état de cause, si je prends le mandat de Viginum aujourd'hui, et que je le transpose donc quelques années en arrière au moment des Macron Leaks de 2017, notre mandat, nous, n'aurait jamais été, évidemment, de dire que ce contenu est vrai ou faux. Ça n'a jamais été le sujet de Viginum, ça ne le sera jamais. En revanche, qu'on puisse détecter et analyser des modes opératoires qui visent à amplifier la visibilité de ces contenus de manière artificielle, automatisée, pour que les contenus soient, j'allais dire, beaucoup plus partagés, touchent davantage d'audience, ça aurait pu rentrer dans notre mandat, puisque c'est une partie du rôle qu'on a.
Là où c'est intéressant aussi, on va ensuite partir des Macron Leaks parce que c'est pas vraiment notre sujet, mais c'est que c'est aussi des personnages qui étaient plus ou moins dans la galaxie Wikileaks, qui avaient déjà touché au Wikileaks des mois et des années auparavant, qui amplifiaient ça. Donc il n'y avait pas qu'un travail de bot, même si ça a fait partie de la chose certainement, c'est aussi des personnages, des personnalités français et pas que français qui ont joué des rôles de relais pour ces choses-là. Et du coup, tout ça fait partie. Enfin, c'est pas que des robots qui font ça. C'est aussi des individus, quoi.
Non, exactement. Puis quand on parlera, je pense, on aura l'occasion de parler un peu de la menace informationnelle, de parler des tendances qu'on observe. Effectivement, elle a beaucoup évolué aujourd'hui. Et ce que vous appelez des bots ou des trolls, c'est toujours valable aujourd'hui, hein, mais ça reste une menace un peu ancienne et aujourd'hui elle a quand même évolué, elle est un peu plus sophistiquée. Donc on va dire que les acteurs étrangers de la menace informationnelle aujourd'hui innovent et finalement nous aussi pour mieux les détecter et les parer.
Alors si on reste sur cette historique, il y a un autre moment où on va peut-être passer dessus mais qui est important, qui est en l'occurrence qu'il y a un rapport, juste après ça, c'est le rapport CAP-CIRSEM sur les manipulations de l'information par un certain Jean-Baptiste Angèle Villemer, notamment, qui y a participé, mais qui a été important notamment pour commencer à attribuer, pour commencer à dire que là, ça venait, il y avait quand même un écosystème en russe qui avait touché à ça, etc., etc. Mais bon, ça, c'était encore ponctuel. Donc, quel est le moment, puisque vous décriviez qu'effectivement, Emmanuel Macron avait été vaguement sensibilisé au sujet, quel est le moment où ça s'institutionnalise ?
Alors, peut-être sur le rapport CAP-CIRSEM, je pense que ça a été un acte assez fondateur en termes tant de prise de conscience de l'opinion publique, mais aussi des décideurs de manière générale sur la réalité de cette menace.
CAP-CIRSEM, je vais rappeler le LIRSEM, donc c'était les auditeurs savent un peu ce que c'est que LIRSEM, mais donc ça relevait du ministère des Armées et le CAPS relevait du ministère des Affaires étrangères, ce qui montre une dualité qui reste structurante. Quoi.
Exactement, et je pense que cette dualité-là, alors elle est structurante, elle est toujours valable aujourd'hui, et elle est liée au fait que la manipulation de l'information est une menace hybride par nature, donc complexe à appréhender, et aujourd'hui, le traitement de ce genre de menace ne peut pas être le fait d'un seul acteur. Ça, je pense qu'on pourra en parler ensemble. Pourquoi je disais que le rapport donc CAP-CIRSEM était fondateur, au-delà donc de la prise de conscience qu'il a servi un peu à provoquer en termes un peu aussi d'électrochoc, c'est qu'il a été fondateur puisque un certain nombre de recommandations dedans, notamment l'une d'entre elles, évoquait le besoin de doter la France et l'État français d'une capacité spécifique pour détecter, suivre, analyser ces phénomènes. Et donc dès 2018, il y avait quand même cette idée-là qui était en germe et qui avait été posée dans le débat public au travers de ce rapport. Alors maintenant, quelle a été un peu la cristallisation ? Qu'est-ce qui a permis de cristalliser la décision de créer Viginum ? Eh bien, c'est le triste attentat contre le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Et donc, ce qui s'est passé donc à la fin de l'année 2020, cet assassinat n'est pas en soi à l'origine une affaire de manipulation de l'information. C'est une affaire de haine en ligne et de dénonciation en ligne. Là où c'est devenu une affaire de manipulation de l'information, c'est, si vous vous rappelez, si vos éditeurs se rappellent un peu, les discours que le président de la République d'alors avait fait pour rappeler ce qu'était la France, son modèle, les valeurs, la laïcité, la liberté d'expression, et donc d'une certaine manière le droit au blasphème, qui est finalement un corollaire de la liberté d'expression. Vous vous rappelez qu'il y a un président étranger en face qui, lui, n'a pas forcément goûté de la même manière les propos du président. Ce président-là était président turc, qui a eu des propos assez violents, pour ne pas dire autre chose, à l'égard de ce qu'est la France, de son modèle, et en nous accusant notamment d'islamophobie. Et c'est ces discours-là répétés, offensifs contre la France, qui ont généré une très vaste campagne anti-française sur les réseaux sociaux, tout azimut, pendant plusieurs semaines. Et c'est ça qui a incité les autorités à mettre en place une cellule de crise qui a été finalement un peu le laboratoire de Viginum. Et cette cellule de crise s'appelait la Task Force Honfleur. Donc ça, c'est
parce que
le début de tout.
L'idée, c'est que ce n'était pas authentique, que ce n'était pas vraiment des vrais internautes qui suivaient le narratif que le président Erdogan avait lancé, c'est-à-dire qu'il y avait une manipulation derrière. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que... Parce que en fait, des internautes musulmans et pas musulmans ont le droit aussi de trouver que ce que dit le président Erdogan est vrai, etc. Donc à quel moment est-ce que c'est passé au SAD, ok, là il se passe quelque chose de problématique et il faut un outil gouvernemental d'action publique pour y faire face?
Alors je pense que c'est à partir du moment où vous avez un French bashing extrêmement violent, qui gagne pas seulement le débat public national, mais aussi dans d'autres endroits du monde, notamment au Proche-Moyen-Orient, que vous avez des entreprises françaises qui sont nommément ciblées au travers d'une campagne de boycott de leurs produits, par exemple, que vous avez un certain nombre d'institutions en France qui sont ciblées parce que taxées d'islamophobie et autres. Et ça a pris tellement d'ampleur de façon virtuelle sur les réseaux sociaux qu'à un moment, ça a fini par gagner, j'allais dire, un petit peu la sphère physique, puisque les médias s'en sont saisis, ont commencé à en parler. Et donc là, on était sur un phénomène qui n'était plus un phénomène, j'allais dire, uniquement numérique, mais un phénomène qui avait commencé à gagner la vie médiatique. Et là, il fallait y parer. Il fallait déjà le comprendre. C'était d'ailleurs le premier mandat de la Task Force Honfleur. C'était comprendre ce phénomène et cette campagne, cette vaste campagne de manipulation de l'information. Et puis ensuite, essayer de trouver une analyse, enfin une méthodologie d'analyse pour vraiment bien l'appréhender, pour bien l'analyser. C'était ça le mandat premier de la Task Force Honfleur.
Task Force Honfleur que vous dirigiez à cette époque.
Oui.
À l'époque, vous étiez militaire, vous étiez lieutenant-colonel. Mais c'est intéressant parce que c'est la place d'un militaire dans ce rôle-là montre bien qu'il y avait une dimension, je ne sais pas, militaire. En tout cas, quel était le sens de ça?
Alors, pas du tout.
Okay.
Alors, voilà, pour être honnête, donc là, on en vient à parler un peu de moi, de ce que je comprends de votre question.
Ouais.
Donc, effectivement, à l'époque...
Ça pose effectivement la question de qu'est-ce qu'un militaire de l'armée de terre?
Que fait-il là?
que vient-il faire dans ces...
Ouais.
Mais non, mais parce qu'aujourd'hui... Bon, c'était déjà dans l'air, les menaces hybrides, etc. Enfin, on ne peut pas s'arrêter qu'aux capacitaires, qu'il y a aussi l'information et un domaine d'action militaire à part entière. À l'époque, c'était peut-être un peu moins net. Et du coup, ça pose la question, effectivement, de comment vous en êtes venu à tous ces sujets-là.
Alors, le parcours que j'ai eu est un parcours assez classique. Hein. J'ai pu évoluer dans l'armée de terre pendant un peu plus de 20 ans, en ayant fait Saint-Cyr, l'école de guerre, des unités d'infanterie de marine. Et il se trouve qu'après mon temps de chef des opérations d'un régiment, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le SGDSN, et notamment l'ANSSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui est un peu l'autorité nationale en matière de cyberdéfense et de cybersécurité. Et c'est parce que j'étais à l'ANSSI que je suivais au titre des fonctions que j'avais en cabinet du directeur général de l'ANSSI, qui était Guillaume Poupard à l'époque. Je suivais un peu ces sujets, soit de sécurité économique, soit un peu de manipulation de l'information, donc qui n'étaient pas du tout traités par l'ANSSI, hein, je tiens à être très clair. L'ANSSI, c'est vraiment une agence qui est cyber, donc qui ne traitait pas de sujets, j'allais dire de contenu, je suis caricatural, hein, de sujets de contenu, de manipulation de l'information. Néanmoins, je suivais au titre du rôle que j'avais en cabinet. Et lorsque cette Task Force Honfleur a été créée...
vraiment les firewalls et éviter de se faire pirater.
Oh, vous êtes réducteur. Je pense que si vous retenez ça, ça va être terrible pour ceux qui travaillent à l'ANSSI aujourd'hui, qui sont dans le domaine cyber. Non, l'ANSSI, c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est une autorité nationale. Mais en tout cas, la logique de l'époque est qui est tout à fait vraie aujourd'hui. C'est l'ANSSI va s'occuper des sujets, on va dire, d'infrastructures, de logiciels malveillants, voilà, pour être très clair, de codes informatiques malveillants et d'attaques cyber. Et à l'époque, n'existait pas la partie manipulation de l'information. Aucune agence dédiée, en fait, avait cette mission-là. Et donc, comme j'étais, on veut dire, bien placé à l'ANSSI et que je suivais donc, les sujets de manipulation de l'information, eh bien, tout naturellement, quand il a fallu armer cette task force en fleurs, donc les ministères concernés et l'ANSSI notamment ont fourni des gens. Et donc, j'ai servi d'officier de liaison avant de prendre ensuite la tête de cette task force en fleurs. Donc, en fait, ça n'avait rien à voir avec mon statut de militaire aujourd'hui. On ne voulait pas du tout militariser la task force en fleurs, mais c'était plus lié au fait qu'il y avait besoin probablement de structurer un peu et puis d'essayer de trouver cette un peu méthodologie d'analyse des phénomènes sur les réseaux sociaux.
Et alors, qu'est-ce que vous avez compris dans cette task force en fleurs à ce moment-là? Qu'est-ce que ça a donné?
Alors, pour parler de l'histoire, et ça fera certainement sourire vos auditeurs, mais lorsque cette task force est mise en place dans le courant du mois de novembre 2020, il faut imaginer une petite salle aux Invalides, 8 à 10 personnes qui se retrouvent devant une feuille blanche. Et il a fallu qu'on crée quelque chose. Parce qu'à la différence probablement d'autres pays ou d'autres thématiques, c'est rare qu'on crée une cellule de crise qui parte de rien du tout. Puisque souvent, vous allez vous appuyer sur une connaissance de la menace, sur des capacités déjà existantes. Or, il n'existait rien à l'époque au sein de l'État. Quand je dis rien, non, il existait des choses qui font des opérations de recherche en ligne. Les réseaux sociaux n'étaient pas inconnus de l'État. Mais il n'existait pas de capacité dédiée à l'analyse des phénomènes sur les réseaux sociaux. Et donc, avec cette petite équipe, on avait, on se voyait un peu en flibustier, si vous voulez, un peu du sujet numérique et des réseaux sociaux. Bah, il a fallu qu'on crée une méthodologie d'analyse de la dynamique de propagation d'une campagne de manipulation de l'information. Puisque c'était un peu ça l'objet. Puisque le premier mandat de cette task force, c'était de comprendre cette vaste campagne anti-française sur les réseaux sociaux. Et donc avec patience, avec beaucoup de débats, puisque ça a été une vraie petite démocratie dans cette salle, on a inventé une méthodologie. Alors pour l'anecdote, qui existait déjà bien avant par ailleurs, puisqu'on a voulu suivre un peu une méthodologie en acteurs, comportement, contenu et puis mesure des effets. Je pense que vos auditeurs qui sont très au fait du sujet vont évidemment reconnaître la méthode de Ben Nimmo qu'il avait inventée à l'époque de Graphica et un peu avant. Sauf que nous, on n'en avait pas forcément connaissance. Voilà. Et donc on a recréé un truc qui existait. Ce qui est phénomène pas du tout courant dans l'administration. Je vois votre sourire, Alexandre, je vois que vous voyez de quoi je parle. Donc là, on était, voilà, on a inventé ça et surtout, on a essayé de l'appliquer concrètement sur une plateforme et sur un acteur pour essayer de voir si ça marchait, ce qu'on avait inventé.
C'était quoi la plateforme ?
On a travaillé sur Twitter principalement, puisqu'en fait, la plupart des phénomènes qu'on observait utilisaient beaucoup Twitter, quoi. Ça se passait beaucoup sur Twitter.
C'est intéressant parce que c'est une époque où Facebook était aussi extrêmement important, où Facebook d'ailleurs avait un rôle qui avait été beaucoup dénoncé quelques années auparavant autour de la campagne de l'élection de Donald Trump. Parce que Twitter c'était plus viral, c'était plus anonyme,
Le principe même de Twitter, qui est une plateforme conversationnelle, hein, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est devenu X, c'est évidemment le principe de la viralité. Et donc le principe de la viralité, c'est là où la visibilité est la plus forte. Et donc pour nous, c'était intéressant de travailler sur cette plateforme pour comprendre la campagne. Et donc on a, avec cette petite équipe, on a réfléchi donc cette fameuse méthodologie en quatre temps, en quatre blocs, peu importe comment on l'appelle, acteur, comportement, contenu et mesure des effets. Et on a essayé de produire des résultats pour comprendre un petit peu les ressorts de cette campagne, comprendre un peu plus la façon dont certaines audiences en France étaient visées, en analysant notamment les dynamiques de propagation sur Twitter. Est-ce qu'on arrivait à trouver des bots ou des trolls ? Comment ça fonctionnait, comment étaient formés les différents clusters de comptes qui permettaient d'amplifier la visibilité, donc la viralité du contenu, et puis de travailler un petit peu sur les narratifs qui étaient utilisés pour essayer de voir au travers de ça quelle audience était spécifiquement visée.
Mais comment vous travailliez, vous travaillez encore aujourd'hui, très concrètement c'est quoi ? C'est vous êtes tous derrière un ordi et vous scrollez Twitter et vous faites des recherches dans la barre de recherche et ensuite vous les mettez dans des fichiers Excel enfin, ou autre chose, des outils de visualisation. Est-ce que vous faites, vraiment concrètement ça ressemble à quoi ? Enfin, ça ressemblait à quoi une journée à la Task Force en fleurs et désormais à Viginium ? C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi vos outils pour détecter tout ça ?
Alors, une journée à la Task Force en fleurs, je pense que je vais d'abord parler de ça parce que Viginium étant arrivé après et je pense que c'est important d'expliquer à tous vos auditeurs qui sont très nombreux tout le cadre dans lequel on travaille. Parce qu'à l'époque de Honfleur, qui était une cellule de crise, on défrichait des sujets, on avançait, comme peut le faire une start-up qui cherche une forme de business model, hein, c'est un peu ce qu'on a fait. Et donc notre travail consistait principalement à essayer de voir comment des comptes interagissaient entre eux, comment ils se coordonnaient pour amplifier un contenu. Voilà, concrètement, c'était ça, le travail pendant la Task Force Honfleur.
C'est-à-dire, il y a un message et vous essayez de voir à quel moment il est repris, il est retweeté ou pas retweeté, ou repris
concrètement,
tel quel, mais en faisant des recherches
Des hashtags. Pour être très concret, quand vous voyez, c'est encore vrai aujourd'hui, hein, le volume en fait, d'échanges que vous avez sur Twitter sur une journée, il est illusoire de croire qu'un service de l'État, quel qu'il soit, ait la capacité à tout aspirer, tout collecter, même s'il a un mandat. C'est impossible techniquement. Donc l'enjeu n'a jamais été celui-là. C'est bon, Viginium ou la Task Force en fleurs avant n'a jamais été conçu comme un Big Brother qui a une vocation à tout surveiller, pas du tout. Donc ce qu'on essayait de faire, c'est qu'on prenait les hashtags qui apparaissaient dans les tendances, dans les top tendances, les top trends, notamment ceux qui avaient le plus de viralité. Et à partir de ce hashtag, on essayait de voir quels étaient les comptes qui avaient essayé d'en amplifier le plus massivement possible la visibilité. Et avec des petits outils assez simples, on arrive à identifier des comptes. On a notamment pas mal regardé une méthodologie qui s'appelle le CMT, donc le calcul de coefficient de manipulation du trafic, voilà, et qui permet, au travers de ce calcul de coefficient, d'identifier, en fait, vous savez, une fréquence de retweet très élevée, qui en général est un indicateur qu'il n'y a pas une personne humaine derrière. Donc ça nous a permis d'identifier assez rapidement un petit volume de faux comptes qui avaient une activité inauthentique, parce qu'on voyait bien que la fréquence de retweet qu'ils avaient sur un ou des hashtags était totalement non naturelle.
Mais c'est intéressant, pour avoir ça, il faut avoir un historique. C'est-à-dire, il faut avoir une dimension, je le pense en tant que simple utilisateur de Twitter, c'est-à-dire pouvoir que quelqu'un a plus à des retweets très très rapidement, enfin à une fréquence inhabituelle, il faut être capable de traquer la vitesse à laquelle les retweets arrivent. Et ça, je ne sais pas comment on le fait, enfin quel est l'outil qui permet de le faire à partir d'une interface, d'une standard de la plateforme, quoi.
Alors là, on vous rentre dans les secrets de cuisine et un bon chef cuisinier ne révèle jamais ses recettes, Alexandre. Alors, donc je ne peux pas le faire.
Mais
sachez que quand a été mis en place la Task Force Honfleur, qui a eu une durée de vie d'à peu près 3 mois et demi à peu près, donc notre profondeur d'historique n'était pas énorme, hein, pour être franc avec vous, et on a fait de l'artisanat. Ce qui n'est plus du tout Viginium aujourd'hui, qui est un vrai service professionnel. Mais à l'époque, il faut imaginer que vous donnez un mandat de comprendre une campagne, ce qui n'a jamais vraiment été fait dans l'État auparavant, à une dizaine de personnes qui, alors certes, on connaissait tous le sujet numérique ou le digital, on avait tous une appétence un peu là-dessus, mais on a dû inventer. Voilà. Donc on a fait avec un peu les moyens du bord pour obtenir des résultats qui, d'une certaine manière, ont été jugés suffisamment probants pour que soit décidé de créer un service à compétence nationale, en l'occurrence Viginium.
Donc ça, c'est en juillet 2021, enfin en tout cas que passe le décret qui crée Viginium. Ça a été quoi là ? C'était juste une augmentation de moyens ? C'était un changement de mission ? C'est-à-dire comment est-ce que ça a présidé à quoi la création de Viginium ?
Alors peut-être pour rentrer un peu dans le détail, donc là on vient de parler de la Task Force Honfleur, qui a été cette forme un peu d'éprouvette, de petit laboratoire d'essai, en mettant 10 personnes dans une salle avec un mandat simple, est-ce qu'on arrive à produire des résultats sur la compréhension d'une campagne ? Manifestement oui, puisque le choix a été fait de créer Viginium, rattaché donc au SGDSN, comme vous l'avez très bien dit, en tant que service à compétence nationale.
Juste un détail, la Task Force Honfleur, vous avez produit, j'imagine bien que vous avez produit des choses, mais vous avez publié, un rapport, etc. C'était que du background, c'était que pour informer les services de l'État, mais il n'y avait pas de dimension publiée.
Non, pas du tout, exactement. Mais ce que fait rarement une cellule de crise, hein, une cellule de crise dans l'État aujourd'hui, elle est là pour, entre guillemets, faire la conduite et le pilotage d'une situation de crise, qui est une situation de déséquilibre, d'un fonctionnement normal. Elle n'est pas là pour rendre des comptes d'une certaine manière. Elle peut, dans le cas d'une mission parlementaire, mais ça n'a pas forcément été le cas. Et donc là, on se retrouvait de mémoire, mars 2021, avec la fin de la Task Force Honfleur et le début d'une mission de préfiguration, parce que ça s'appelait comme ça, pour créer ce service à compétence nationale. Et peut-être ce qui est intéressant pour vos auditeurs, c'est que les deux lignes, les deux directives que moi j'avais en tant que préfigurateur du service, c'était des lignes qui étaient assez simples. C'est que Viginum, ça sera un service opérationnel et technique. Donc on crée une structure qui aura une capacité opérationnelle, parce que c'était ce qui faisait défaut. Mais surtout, les deux directives qui étaient très claires, c'est un, on a une obligation de préparer le débat public, puisque mars 2021, c'est peu ou prou un an avant l'élection présidentielle de 2022. Donc vous imaginez, dans le débat public, le fait que l'opinion, les médias comprennent, les partis d'opposition, qu'on s'apprête à créer une agence de lutte contre les manipulations de l'information, ça peut facilement être interprété comme l'agence de la vérité, le ministère de la censure.
Oui, cela a été d'ailleurs de manière assez... Enfin, ça a été assez allègrement fait. Ensuite, c'est des éléments de langage qu'on a trouvés. Mais ensuite,
ça se trouvait, mais c'était pas majoritaire. En fait, le secret a quand même été assez bien gardé jusqu'en juin 2021. Là où il y a eu une audition de notre secrétaire général qui a pu en parler. Mais au-delà de ça, donc, la première ligne, c'est de préparer le débat public. Et la deuxième ligne qui est importante, c'est qu'en tant que démocratie, on doit faire les choses en transparence. Et avec ces deux lignes-là, bah, on a essayé de faire les choses bien, comme on doit le faire dans ce genre de situation, c'est-à-dire de rencontrer les députés, les sénateurs compétents, de rencontrer les partis politiques pour leur expliquer le projet, partager avec eux l'état de la menace que nous on faisait, qui était très préoccupant, ce qui est encore valable aujourd'hui, et je pense que l'actualité le montre, et que le fait qu'on crée une agence nationale à ce moment-là n'a rien à voir avec des enjeux électoraux, c'est à voir des enjeux de sécurité nationale. Et le consensus était total, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu un seul interlocuteur en face de nous qui ont douté de la pertinence de cette décision et qui ont pu mettre en doute, du fait de la proximité d'une élection, le fait que, voilà, que l'État se dote d'une agence dédiée soit une problématique démocratique, bien au contraire. Donc ça, c'était pour la première directive qu'on a vraiment mise en œuvre avec le secrétaire général du SGDSN. Et sur la deuxième directive, qui est la transparence, en fait, c'est assez clair. C'est qu'à partir du moment où on accepte de créer un service de l'État, on ne va pas le faire de manière cachée. Ce n'est pas quelque chose qu'on planque, j'allais dire, dans un ministère ou une administration dont on ne voudra pas assumer l'existence. Donc le premier travail qui a été fait, c'était de définir en gros ce qu'est la manipulation de l'information sur laquelle on veut travailler et ensuite quelle mission on va donner à ce service, voilà, très concrètement. Et quand vous regardez, et c'est ça qui est intéressant, la définition de manipulation de l'information, donc il y en a plein, il y en avait une qui nous a servi, c'était celle du Conseil constitutionnel, hein, puisque vous savez, je suis sûr, Alexandre, qu'il y a des lois du 22 décembre 2018 qui sont des lois sur la lutte contre les manipulations de l'information, qui traitent notamment du contexte électoral. Et il se trouve que, bah, comme toute loi, le Conseil constitutionnel rend un avis. Et dans cet avis, il avait donné un petit peu son interprétation de ce qu'est une manipulation de l'information, caractérisé un peu par deux critères. Le premier, c'est un critère de comportement, c'est-à-dire une diffusion automatisée ou artificielle, massive et délibérée d'un contenu. Et après, un critère de contenu, qui était celui d'avoir des imputations de faits ou des allégations manifestement inexactes ou trompeuses. Donc c'était ces deux critères-là. Soyons honnêtes, quand on prend ces deux critères et qu'on se dit « Ok, c'est la menace sur laquelle on veut travailler », en fait, vous attrapez tout et n'importe quoi dedans. Et notamment, projetons-nous 12 mois après dans une campagne électorale, bah, au final, vous attrapez y compris des équipes de campagne qui peuvent utiliser des faux comptes sur les réseaux sociaux pour amplifier des lignes narratives ou critiquer le candidat d'en face. Donc si on s'en était arrêté uniquement à ce critère-là, on aurait été embêté. Donc nous, on a voulu être encore plus précis, être encore plus cloisonné dans le travail qu'on voulait faire. Donc on a rajouté deux critères. On a rajouté un critère d'implication d'un acteur étranger, qui soit étatique ou non étatique, et qui le fasse de manière directe ou indirecte, peu importe. Et on a rajouté un quatrième critère, enfin un deuxième, mais qui est devenu un quatrième après, c'est le critère de l'intentionnalité, c'est-à-dire de la volonté de vouloir porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Et donc la manipulation de l'information, avec ces deux critères en plus, l'implication d'un acteur étranger et cette volonté d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, bah, c'est devenu l'ingérence numérique étrangère. Et c'est ça où je trouvais qu'on a assez adroitement bien fait les choses. notamment avec le Conseil d'État qui a pu nous aider dans la réflexion un peu, c'est qu'on a vraiment créé une menace en rajoutant donc ces deux critères, donc ça fait une menace à quatre critères. Voilà. Je suis désolé, je vais être un peu pénible en mathématiques avec vos auditeurs, mais on a créé vraiment une menace qui est une menace de sécurité nationale. Donc on a bien des acteurs étrangers aujourd'hui, quelle qu'en soit la nature, qui vont vouloir interférer dans un débat public national, quel que soit le sujet, pour porter atteinte à nos intérêts les plus fondamentaux. Et nos intérêts les plus fondamentaux, c'est pas seulement la présence militaire en Afrique, par exemple, si on traite de sujets de politique étrangère. Ça va être la façon dont l'État s'organise pour fonctionner, ça va être les élections, ça va être des enjeux économiques, ça peut être des enjeux d'éducation, des enjeux de culture, des enjeux sur les débats de société. Et donc on a vraiment fait une menace en, j'allais dire, ajustant le concept de manipulation de l'information tel que le Conseil constitutionnel avait vu. On a vraiment fait une menace étrangère sur laquelle on pouvait travailler. Voilà, ça a été le gros travail qu'on a fait.
Et alors Viginium, comme donc le service correspondant à cette menace, c'est-à-dire, ça vous a doté de quoi d'avoir un service par rapport à avoir une task force?
Ah, alors... Deux choses, c'est qu'une task force est une structure en théorie non permanente qui est là pour gérer une crise. Et d'ailleurs, c'est assez bien expliqué dans tous les guides de gestion de crise de l'État. À partir du moment où on considère que on a une lacune capacitaire pour traiter une menace hybride qui était la manipulation de l'information, le fait de passer par un décret pour créer Viginium et de le doter après d'autres éléments, et ça je pense qu'on pourra en parler après, ben en fait vous avez un État démocratique, la France, qui assume de créer une agence d'État avec un mandat spécifique pour traiter une menace spécifique. Et je trouve, de mon point de vue, que c'est la meilleure façon de faire. C'est-à-dire que demain, prenons le cas d'autres partenaires étrangers, c'est assez difficile pour un ministère des Affaires étrangères ou un ministère de la Défense ou même un ministère de l'Intérieur de sécuriser une élection majeure, par exemple. C'est quand même délicat, démocratiquement parlant. Donc quand vous sortez d'un ministère, une capacité...
Historiquement, ça aurait relevé du ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a un bureau des élections.
Alors le bureau des élections est un bureau qui organise les élections, et d'ailleurs ils le font extrêmement bien, on travaille vraiment bien avec eux, mais vous ne pouvez pas demander au ministère de l'Intérieur ou un service de renseignement de, protéger une élection au sens de suivi d'une menace de manipulation de l'information. Ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident tout simplement parce qu'il y a un enjeu politique de sensibilité derrière. Vous ne savez pas comment ça va être pris par l'opinion qu'on confie à un ministère régalien dur une mission de cette nature. Et donc c'est pour ça que l'approche qui a été faite en voulant créer Viginium, c'est qu'on ne crée pas un service de renseignement. Viginium n'est pas un service de renseignement. On ne crée pas une direction dans un ministère qui aura ce rôle-là. On assume de créer une forme d'agence nationale comme l'ANSSI là, sur le sujet du cyber, et on la met à un niveau interministériel parce que la menace de manipulation de l'information, c'est une menace hybride dont le traitement est par essence à vocation interministérielle, et donc on la place à ce niveau-là. Et donc c'est ça que l'État a voulu envoyer comme message, c'est il n'y a plus de naïveté dans le domaine, on assume de se doter des moyens pour agir, mais au-delà de l'action, on va surtout lui donner un cadre. Et je pense que c'est ça l'enjeu majeur. Et ça, j'en arrive à mon autre point. Je vous parlais du décret du 13 juillet donc, qui crée la définition d'ingérence numérique étrangère, qui donne différentes missions à Viginium, notamment sa mission première, qui est la mission la plus opérationnelle, qui est celle de détecter et caractériser ces opérations d'ingérence numérique étrangère. Mais surtout, on a eu un deuxième décret. Puisque avoir un mandat pour agir, c'est bien. Maintenant, à un moment donné, il faut bien être autorisé à collecter des données à caractère personnel sur les réseaux sociaux et à pouvoir les analyser. Et donc on a pu, en travaillant vraiment très étroitement avec la CNIL, puis après avec le Conseil d'État, pouvoir se doter le 7 décembre 2021 d'un deuxième décret qui est public, ça les gens peuvent aller voir, d'un décret qui cadre notre activité opérationnelle de ce qu'on appelle un traitement automatisé de données à caractère personnel. Et petite cerise sur le gâteau, je vous ai coupé Alexandre. Je vous parlais tout à l'heure qu'on avait donc deux décrets, puisque rappelez-vous, la deuxième directive qu'on avait eue, c'était celle d'être transparent. Et je pense que si on se crée un statut juridique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant sur notre sujet. Et donc la volonté du secrétaire général du SGDSN, c'était de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement éthique à notre travail. Et c'est pour ça qu'a été décidé de créer auprès du secrétaire général du SGDSN un comité éthique et scientifique qui va suivre l'activité de Viginium, qui n'est pas un organe de contrôle, mais qui va pouvoir nous émettre des recommandations, qui a accès à nos productions et qui peut produire un rapport public à l'année, chaque année, qui va rendre compte de l'activité qu'on fait. Donc je trouve que pour répondre à cette menace-là, qui n'est pas une menace simple, pour être franc avec vous, la France a choisi, alors un, d'assumer sa position, mais de le faire dans un cadre éthique et juridique assez unique, et qui finalement qui est très protecteur des libertés individuelles. Et ça, à mon avis, c'est ça la grande différence avec probablement les approches portées par d'autres pays, c'est qu'on a assumé et qu'on l'a doté d'un cadre qui est très rigoureux.
Et en termes de concret, donc de moyens, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi, Vivinum, aujourd'hui ? Donc j'imagine que, déjà, vous êtes où ? Parce qu'en fait, la géographie des agences n'est pas inintéressante. Est-ce que vous êtes dans un ministère ? Est-ce que vous êtes hors d'un ministère ? Et il y a combien de personnes qui travaillent chez vous ?
Alors, je n'ai pas donné trop d'informations, sinon je pense que je recevais plein de cartes postales élogieuses sur le travail que fait le service. Donc voilà, le Viginum est installé dans Paris, dans un immeuble qui est à lui, donc on ne partage pas avec un autre ministère. Aujourd'hui, le service a à peu près une cinquantaine d'agents, qui est réparti globalement, deux tiers à trois quarts des agents sont dans les opérations. Donc dans la recherche en source ouverte, et vous avez le tiers et le quart restant à peu près, qui est dans toute la partie soutien de l'activité, et toute la partie coordination, coopération, partenariat, et un peu la partie stratégie. Donc voilà comment ça se répartit. Donc on a bien le cœur du réacteur qui est très opérationnel, avec beaucoup d'analystes et des data scientists, qui suivent des menaces particulières, qui font de la veille ciblée sur les réseaux sociaux. Et là, je rejoins un petit peu avec des questions que vous me posiez hein, sur c'est quoi concrètement le travail de Viginum. Viginum ne suit pas tout le débat public, Viginum ne suit pas toutes les thématiques. Viginum va suivre des thématiques qui sont liées aux intérêts fondamentaux de la nation et va faire des veilles ciblées par du suivi d'acteurs de la menace que l'on connaît et qui sont déjà identifiés.
Et donc vous êtes combien ?
Une cinquantaine.
Une cinquantaine, pardon. Et c'est qui ? C'est-à-dire, vous recrutez. Non, mais c'est intéressant. Vous recrutez qui ? Vous recrutez des policiers, vous recrutez des militaires, vous recrutez des chercheurs. C'est-à-dire, c'est quoi le profil ?
Alors, le profil de Viginum, le profil de l'agent, c'est une moyenne d'âge de 29 ans. C'est 60% de femmes dans le service. Et il n'y a pas de policiers, pas de gendarmes, pas de militaires. Donc, chez Viginum, vous avez majoritairement des gens qui viennent du monde académique, du monde de la recherche, qui ont pu, pour certains d'entre eux, faire un passage dans des administrations, mais en tout cas qui n'ont pas le statut de policier, de gendarme ou de militaire. On a des ingénieurs en sciences de la data, on a des data scientists, on a des ingénieurs informatiques. Donc on a, je vous le disais tout à l'heure, on a travaillé sur une page blanche quand on était pendant la Task Force en fleurs, mais d'une certaine manière, à la création de Viginum, on a fait un peu pareil, et on a créé un métier. On a créé un métier qui n'existait pas dans l'État, de toute pièce. Donc on a voulu réunir, en fait, trois compétences qu'on jugeait, l'actualité nous le confirme, qu'on jugeait pertinentes pour créer ce nouveau métier. C'est de la géopolitique, une approche géopolitique des choses, de l'OSINT, donc de l'Open Source Intelligence pour vos auditeurs, et de la Data Science. Et en regroupant ces trois compétences pour créer le métier opérationnel de Viginum, eh bien, c'est le profil un peu ou prou, vous avez des analystes qu'on a chez nous.
Et donc, encore pour rester dans des trucs très concrets, c'est donc des agents qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à essayer de repérer des hashtags qui montent, qui descendent, qui ont, j'imagine, des comptes qu'ils ont déjà plus ou moins identifiés et qui surveillent pour voir ce qu'ils reproduisent, c'est à peu près ça ?
Alors ça correspond à ça. Le mandat du service aujourd'hui, il n'est pas que lié à des hashtags ou à Twitter. Hein. On travaille sur, heureusement, plus de plateformes que ça. Et effectivement, on peut avoir deux approches. Hein. On peut avoir une approche qui est thématique, où on va suivre des thèmes, des mots-clés, des hashtags pour parler de Twitter, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont très attractifs pour des acteurs de la menace, parce que sur des sujets clivants, polémique. Ça, c'est l'approche thématique. Et après, on la croise avec une approche par acteur, où là, on va suivre des comptes, des profils, des pages, des sites web, parfois des blogs, des forums, des chaînes Telegram publiques. On va suivre ça, puisqu'on sait qu'elles sont rattachées à des acteurs de la menace. Et donc, en croisant cette approche thématique et cette approche acteur, on arrive à pouvoir, dans le meilleur des cas, anticiper, au moins détecter des phénomènes.
Mais c'est la question de à quel point en fait vos outils sont accessibles quoi. C'est-à-dire, à quel point est-ce que quelqu'un peut faire ce que vous faites, c'est-à-dire peut repérer par exemple un troll, un bot russe, quelqu'un qui fait partie d'une campagne de désinformation, de manipulation de l'information. À quel point est-ce que ça vous paraît une compétence qui est accessible à un internaute lambda qui observe, qui a un peu du jote, qui probablement connaît certains des narratifs, mais en même temps, c'est pas parce que quelqu'un reprend un narratif favorable à une puissance étrangère que c'est forcément quelqu'un qui fait de la manipulation de l'information. Il y a aussi des gens qui ont le droit de croire à ces choses-là. Donc voilà, dans quelle mesure est-ce que c'est par tous les moyens, les data scientists, des outils, des interfaces dont j'imagine qu'ils ne sont pas à la portée du premier venu, et dans quelle mesure est-ce que c'est aussi simplement quelque chose qui est en fait faisable, c'est simplement qu'il faut le faire, quoi. C'est un métier. Quoi.
Alors, rendons à César ce qui est à César. Et historiquement en France, mais aussi dans d'autres pays, les gens qui étaient des sachants en matière de manipulation de l'information, ce n'était pas l'État, c'était le monde académique, notamment les think tanks, et c'était les journalistes d'investigation. Puisque c'est eux, ces deux entités-là, qui s'étaient dotés un peu de compétences en OSINT et qui faisaient des choses. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant de le rappeler. Ensuite, ce que fait l'agent de Viginum, pour être assez franc avec vous, et le décret du 7 décembre le dit, on voit la même chose qu'un internaute. C'est-à-dire qu'on accède aujourd'hui aux contenus qui sont publiquement accessibles. Voilà, c'est comme ça que c'est formulé. Donc ça veut dire qu'on ne va pas plus loin que ce que vous, Alexandre, vous pouvez faire avec votre pratique des réseaux sociaux, avec peut-être quelques outils en open source que vous voyez. Là où le service a une énorme plus-value, c'est qu'évidemment, ce n'est pas un agent seul, ce sont des équipes qui manient à la fois donc, plusieurs techniques d'OSINT, une approche géopolitique des sujets, donc en connaissant très bien certains acteurs en face, notamment leur stratégie, leur mode opératoire. Et après, on rajoute toute une couche, donc je vais baptiser ça en data science, mais c'est parfois plus complexe, parce qu'on a développé beaucoup d'outils en interne et qui nous permettent d'attester avec un haut niveau de fiabilité soit la présence de bots de trolls, soit l'utilisation de certaines techniques particulières qui sont bien connues dans la manipulation de l'information, comme le copy-pasta, mais il y en a d'autres, ou l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc on a d'une certaine manière professionnalisé des compétences qui étaient un peu éparses et qui n'étaient pas très industrialisées. Voilà en gros. Maintenant, Viginum n'interagit pas, enfin les agents n'interagissent pas avec les internautes quand ils font leur veille, jamais. On ne rentre pas dans des boucles fermées de messagerie, jamais. Ça, c'est notre mandat est très clair là-dessus. Mais même en utilisant tout ce qui est publiquement accessible, on arrive à faire beaucoup. Et quand vous regardez les récentes campagnes qu'on a pu révéler l'année dernière, que ce soit RRN, donc Doppelganger, Olympia, l'affaire des étoiles de David, ou Portal Combat plus récemment.
Donc reprendre donc RRN, c'est cette campagne qui visait à doubler en quelque sorte des sites d'information institutionnelle.
Notamment.
Et renvoyer les internautes vers d'autres, enfin vers des contenus qui étaient différents et plutôt.
Confirme.
Voilà. Olympia, c'était l'Azerbaïdjan ?
Exactement, et les Jeux Olympiques.
Et les Jeux Olympiques, donc une manœuvre informationnelle émanant de l'Azerbaïdjan pour, disons, dénigrer les Jeux Olympiques français. Récemment, Portal Combat, c'était l'idée qu'il y avait tout un réseau de bots russes, enfin en tout cas de comptes russes qui avaient été...
Alors, de sites internet.
Qui avaient été réorientés au moment de l'invasion de l'Ukraine pour créer un écosystème informationnel favorable au narratif russe. Donc voilà, ça, ce sont des opérations que vous avez révélées. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça pose la question de votre complémentarité avec d'autres services de l'État, puisque vous êtes là pour investiguer. Comment dire ? Dans quelle mesure est-ce que c'est vous qui décidez de révéler ? Dans quelle mesure est-ce que vos rapports sont censés être... Parce que ça, on a l'impression que ça a un petit peu évolué. Il y a une époque où vous étiez extrêmement discret, maintenant vous êtes beaucoup plus visible, enfin en tout cas vous assumez beaucoup plus un rôle public sur ces choses-là. Il y a une complémentarité avec d'autres ministères, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc comment, dans ce genre d'opération, quelle est la répartition des rôles ?
Alors je vais peut-être vous répondre avec trois points un peu différents. Vous parlez tout à l'heure de l'extrême discrétion qu'on avait eue. Alors cette extrême discrétion, je peux l'expliquer un peu, c'est que quand le service a été créé à l'été 2021, pour être franc avec vous, on était 7. On avait l'expérience de Honfleur, mais qui était de l'artisanat. Et on avait évidemment, 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, le référendum de Nouvelle-Calédonie, puis moins d'un an après, l'élection présidentielle. Donc on avait un enjeu énorme qui était un enjeu d'humilité, puisqu'on devait être au rendez-vous. La présidentielle, c'est un peu le crash test du service, pour être franc. et je voulais pas ressembler au mannequin de mise, vous savez, qu'on met dans les voitures pour les claquer sur un mur. Je voulais quand même qu'on réussisse et que le service s'en sorte. Donc je pense qu'il fallait faire aveu un peu d'humilité, pour être franc avec vous, de développer une vraie capacité qui soit crédible. Et puis après, il y a tout simplement aussi, comme toute période électorale, ben, un principe de réserve où l'administration ne la ramène pas, quoi. Donc on a fait en sorte, pendant l'année 2022, de gagner cette crédibilité en étant humble, en acceptant ben, parfois de se tromper quand on teste des choses et que ça ne marche pas, et puis de respecter scrupuleusement ben, l'obligation de toute administration. Donc ça, c'était un peu le premier point que je voulais préciser avec vous. Je voulais faire un deuxième point sur ce qu'on fait concrètement. Parce que vous évoquez la complémentarité. Effectivement, on est très complémentaires. L'approche de Viginum, elle n'est pas seulement de approche acteur, approche thématique. L'approche de Viginum, c'est une approche qui est sur les comportements. C'est-à-dire que Viginum, c'est un service d'investigation en ligne, en source ouverte, sans utiliser de techniques intrusives de renseignement. Ça, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas le mandat qu'on a. Pourquoi je vous dis qu'on a un service qui bosse sur le comportement? Puisqu'en fait, notre axe d'approche, il est sur les infrastructures web. Il est sur le comportement inauthentique. Nous, on ne veut pas travailler sur le contenu à proprement parler. Ça, il y a des services dont c'est le mandat, notamment en matière de communication stratégique, qui en font ça. Pourquoi nous, on ne voulait pas travailler sur la notion de contenu? D'abord parce que c'est très casse-gueule, et ce n'est pas à l'État de dire c'est vrai, c'est faux, dans ce qu'on voit passer. C'est à la société civile, c'est aux médias de faire du fact-checking, du debunking, c'est clairement pas à nous. Voilà, ça, c'est pas le rôle de l'État. Et en travaillant sur les infrastructures, ça nous permet, nous, de révéler des très grands dispositifs, des gros écosystèmes, RRN, Portal Combat, vous l'avez très bien expliqué, Alexandre. Mais aussi, bah, quand on va ensuite, par exemple, quand on a besoin de demander à des opérateurs de plateformes en ligne, quand on va leur montrer ce qu'on a trouvé, bah, c'est toujours plus simple de leur présenter des faux comptes, qui pour le coup enfreignent leurs conditions générales d'utilisation, plutôt que des contenus que nous on peut juger de désinformation, et ils n'ont pas toujours la même appréciation. Et j'en arrive à mon troisième point, qui était celui de la complémentarité. Je crois qu'avec la création de Viginum en 2021, et puis la façon dont après l'État s'est structuré, puisque vous savez qu'au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il y a une sous-direction veille et stratégie qui s'est créée, avec laquelle on travaille vraiment de manière très rapprochée, avec beaucoup de complicité dans les échanges. L'État-major des armées a fait la même chose, avec une cellule aussi anticipation stratégique et orientation. Je crois que la France a créé vraiment, en très peu de temps, un vrai dispositif national de lutte contre les manipulations de l'information qui fonctionne. Voilà. Alors les affaires récentes qu'on a révélées bah, démontrent que sur l'aspect de la riposte et de l'exposition de mode opératoire, ça marche. Mais je pense que le pas en avant qui a été fait est colossal, quoi. Donc ça fonctionne. Donc nous, on est complémentaires parce que d'une certaine manière, nous, au travers de nos investigations, on va révéler des modes opératoires, on va détailler, caractériser, analyser des infrastructures, des réseaux, des écosystèmes de la menace. Quand derrière, nos partenaires, eux, peuvent aller soit un peu plus loin pour pouvoir imputer à un acteur, c'est pas le rôle de Viginum, mais aussi dans le champ de la réponse, bah, nos partenaires, eux, peuvent faire de la communication stratégique, bien accompagner la façon dont on révèle les affaires. Donc oui, ça fonctionne. Moi, je trouve que le dispositif qu'on a aujourd'hui et qu'on a construit en très peu de temps fonctionne vraiment.
Mais l'imputation, c'est pas vous. Non. Le dire ça vient de Russie, ça vient de Chine, ça vient d'Azerbaïdjan, c'est pas vous.
Alors en France, là, je pense que ça, vos internautes qui vous suivent et vos auditeurs qui vous suivent connaissent bien ça. En France, on a vraiment une politique qui est assez claire, c'est que l'attribution à un État, c'est du niveau politique, c'est le ressort du politique, c'est pas une administration de le faire. Ce que peut faire une administration...
Ceci dit en passant, on peut dire, c'est là où c'est intéressant que c'est pas totalement déconnecté de ce que vous faisiez avant du cyber, quand vous étiez à l'ANSSI, c'est qu'on sait que l'attribution de tout ce qui se passe dans la sphère informatique, c'est un très gros problème, notamment pour les attaques informatiques, c'est une question qui est aussi vieille que Internet, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus facile que faire une attaque cyber et se faire passer pour quelqu'un d'autre en tant qu'attaquant, et c'est la porte ouverte à toutes sortes de manipulations. Typiquement, si un Chinois veut attaquer une infrastructure française, il aura tout intérêt à avoir un code en cyrillique s'il peut, parce que c'est une manière de brouiller les pistes, et ça fait que c'est un écheveau particulier. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça se poursuit jusque dans le champ, disons, informationnel, moins dans le champ cyber proprement, et vous décidez de ne pas y toucher non plus.
Bah, en somme, sur le sujet cyber, je pense, pour vraiment, je vais vulgariser à outrance, et en vulgarisant, on peut toujours se tromper un peu, donc je me pardonne si jamais je me fais gronder dans les commentaires de vos auditeurs après, mais on va dire qu'on impute un mode opératoire et on attribue à un acteur. Voilà, si j'étais caricatural. Donc ça veut dire que le rôle d'agence comme l'ANSSI ou comme Viginum, c'est de révéler un mode opératoire, de l'imputer sur, avec un certain nombre de marqueurs, un peu de caractéristiques, mais c'est clairement pas d'attribuer un état. Ça n'a jamais été le rôle de Viginum. Et vous voyez dans les rapports qu'on a fait, ce qu'on a fait concrètement nous, c'est qu'on a dénoncé l'implication d'acteurs étrangers, notamment souvent des sociétés de marketing digital ou de développement web, comme pour Portal Combat. Mais nous, on s'arrête là. On ne va pas dire derrière que le commanditaire, c'est tel et tel acteur stratégique. Ça, ça n'a jamais été notre rôle, ça ne le sera jamais. Ça, c'est au niveau politique de devoir l'assumer sur la base d'autres éléments que ceux de Viginum.
Et alors, enfin, si on poursuit la chaîne, il y a la dernière question qui est la question centrale, c'est celle de la réponse. C'est-à-dire, donc, c'est bien de détecter, c'est ce que vous faites, c'est pas mal d'exposer aussi, c'est ce que vous faites aussi avec des limites, puisque vous attribuez pas. Mais ensuite, la réponse, c'est-à-dire décider comment on fait face ensuite, comment, puisque c'est bien, vous anticipez dans une certaine mesure, mais ensuite, il faut procéder en aval, voire même de réponses offensives potentiellement, c'est aussi sur la table. Ça, à quel moment est-ce que vous intervenez, si tant est que vous interveniez?
Alors, c'est, pour être franc avec vous, la réponse est moins mon champ que celui d'autres partenaires interministériels. Je pense que le rôle de Viginum, qui encore une fois est un bouclier, c'est l'outil défensif sur le sujet de la manipulation de l'information. Nous, notre rôle, c'est de mettre au jour des campagnes, des modes opératoires, des manœuvres, et dans le cadre d'une réponse, de pouvoir contribuer à cette réponse, par exemple en exposant ces phénomènes avec un rapport technique. Voilà, donc ça, c'est clairement le champ de la réponse que fait Viginum, et nous, on s'arrête là. On n'agit pas sur d'autres segments. Il y a d'autres partenaires interministériels qui peuvent organiser la communication stratégique. Je vous parlais tout à l'heure du Quai d'Orsay, le ministère des Armées, c'est ce qu'ils font. Et puis, on peut tout à fait imaginer, rappelez-vous, cette fameuse campagne RRN, donc du mois de juin dernier qu'on a révélée, en juin 2023 avec le Quai d'Orsay. On peut tout à fait imaginer qu'on arrive à obtenir des sanctions européennes sur des entités dont on a pu prouver, avec un haut niveau de confiance, leur implication dans une campagne. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de RRN, puisqu'on a réussi à inclure certaines entités qui étaient à la manœuvre dans un paquet de sanctions Ukraine.
Et puisque vous parliez de la spécificité française, pardon, il y a quoi ailleurs? C'est-à-dire, vous avez des services auxquels vous vous comparez, avec lesquels vous pouvez travailler, avec lesquels vous pouvez dialoguer. Voilà, qu'est-ce qui se passe ailleurs de ce point de vue-là?
Alors, si je devais en préambule résumer le modèle français, c'est une agence dédiée, Viginum, avec une capacité opérationnelle, un cadre éthique et juridique qui est unique et qui est strict, et une gouvernance interministérielle avec plein d'acteurs qui est pilotée par l'ESGDSN. C'est ça le modèle français aujourd'hui. Si je prends ce modèle et que je regarde aujourd'hui un peu à l'étranger autour de nous, en fait, on n'a pas beaucoup d'équivalents, voire pas ou peu, voire pas du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, on échange beaucoup avec beaucoup de pays étrangers. Peut-être le pays qui dispose d'une agence qui pourrait être la plus proche de nous, c'est la Suède, qui dispose d'une agence qui s'appelle l'Agence de défense psychologique, qui ressemble un petit peu dans son format, sa mission, son mandat, la composition de ses agences. Ça ressemble un petit peu à Viginum aujourd'hui. Au-delà de ce cas-là qui est un peu particulier aujourd'hui, moi, l'analyse que j'en fais, c'est que les États qui se sont dotés de capacités un peu dans ce domaine, c'est souvent dans un ministère. Soit ça relève de la communication stratégique, donc c'est souvent dans leur ministère des Affaires étrangères. Soit ça relève de l'investigation numérique, et là vous êtes plutôt dans les services d'enquête de police ou dans des services de renseignement. Voilà, globalement c'est à peu près ça. C'est pas le choix qu'a fait la France, qui encore une fois un peu à l'image du cyber, a voulu se doter d'une agence nationale en assumant un mandat qui est clair.
Et un dernier élément, puisqu'on n'en a pas parlé, on a parlé de votre coopération avec les affaires étrangères, avec le ministère des Armées, etc. Et justement les services de renseignement, c'est-à-dire DGSE, DGSI, puisque ça relève de la sécurité nationale, donc ça peut entrer dans leur champ. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes en prise avec eux, ou pas d'ailleurs, puisqu'on peut considérer que puisque vous êtes censé traiter que ce qui est public, moins de gens en connaissent, mieux les secrets sont gardés, donc c'est, potentiellement ça peut avoir du sens. Mais voilà, dans quelle mesure est-ce que vous travaillez aussi avec les renseignements très en amont donc?
Alors, question taboue, Alexandre, évidemment.
Ouais, bien sûr.
Donc pour vous répondre un peu, je vous parlais tout à l'heure qu'on a tous un rôle dans cet écosystème interministériel. Et une bonne réponse, donc je vais vous faire comme ça, une bonne réponse qui est efficace, c'est une réponse qui comprend un temps qui est un temps de détection de caractérisation, peu ou prou le rôle de Viginum et d'autres acteurs. Et je vais vous faire une métaphore. Mais en gros, nous, c'est comme au Cluedo. On collecte des indices et on fait des faisceaux d'indices concordants. Mais quand on veut répondre à quelqu'un de désagréable, bah, les indices, ça ne suffit pas. Il faut des preuves. Et donc là, il y a un deuxième temps qui est ce temps d'un peu d'imputation et qui, pour que ça fonctionne bien, bah, ce n'est pas celui qui a détecté, caractérisé qui va faire l'imputation. Donc dans ce concept-là, ce continuum-là, c'est ça qui fait qu'ensuite, bah, la réponse, elle est efficace. Donc si votre question est de savoir est-ce qu'on peut être amené à discuter, à partager, à échanger avec des gens qui relèvent de la communauté du renseignement, oui, ça arrive.
Bon, maintenant, j'aurais aimé parler un peu de la menace actuelle telle qu'elle se présente. Donc, on voit bien, ne serait-ce que dans les affaires dont que vous avez citées vous-même, bon, il y a les Russes. Voilà, manifestement.
Paraît-il. Je vous laisse propriétaire de vos propos,
ouais,
Alexandre.
Ça les intéresse. Non, mais bah, pas totalement, puisque manifestement, c'est une insistance. Et la question, c'est... C'est la capacité à tout voir. C'est-à-dire, là, il y a ce gros sujet. Manifestement, il y a un écosystème russophile et un écosystème russe aussi de manipulation de l'information. Dans quelle mesure est-ce que c'est important? Dans quelle mesure est-ce que ça occupe énormément les services de l'État qui travaillent sur ces choses-là? Et parce que ce n'est pas les seuls acteurs nocifs en termes de manipulation de l'information, dans quelle mesure est-ce que, ben, par exemple, un service de 50 personnes, mais... même si vous ne travaillez pas seul, vous arrivez à tout couvrir, surtout quand il y a ce dossier immense qui arrive sur la table.
Alors, je vais vous faire une réponse qui va vous faire sourire, c'est-à-dire je vais changer de sujet.
Ouais.
Donc, je vais vous parler en fait des tendances de la menace que nous on observe, et ensuite je vous parlerai de la menace que vous venez d'évoquer. C'était une petite blague pour vous contourner un peu. Sur les tendances de la menace que nous on observe, on en voit trois, et peut-être que je vais commencer par un chiffre d'abord. En 2022, dans le rapport public qu'on avait sorti, on avait expliqué que Viginum avait vu, je crois, 138, avait détecté 138 phénomènes inauthentiques. En 2023, on est à près de 230 phénomènes inauthentiques qu'on a détectés. Donc probablement, et je l'espère, qu'on est moins mauvais qu'il y a deux ans, donc nos capacités se sont améliorées, mais il y a aussi la menace qui est devenue plus importante. À la fois parce que vous avez la persistance du conflit Russie-Ukraine, qui génère beaucoup d'activités informationnelles, l'explosion du sujet Gaza, qui génère de fait aussi beaucoup d'activités informationnelles, et puis tout un tas de sujets de société qui sont attractifs. Donc ça, je pense que c'est le premier chiffre intéressant, c'est que en l'espace d'un an, bah, nous, on a eu 40% de croissance en termes de phénomènes détectés. Si je reviens aux tendances maintenant, donc nous, on observe trois tendances depuis 12 à 18 mois à peu près, donc qui se confirment au fur et à mesure du temps. La première tendance, c'est une évidence, mais c'est que la menace informationnelle aujourd'hui, elle est plus strictement liée à des élections. Elle touche tous les champs du débat public, tous les sujets, et part très souvent avec des logiques opportunistes. Typiquement, l'affaire des étoiles de David, que vous avez mentionné, qui était, vous savez, ces fameuses étoiles peintes bleues au pochoir dans des rues de Paris à la fin de l'année 2023, et qui était dans un contexte de guerre entre le Hamas et Israël. Et on voit bien aujourd'hui que l'intentionnalité qui était de diffuser, d'amplifier artificiellement la visibilité de ces photos sur Internet, c'est bien une logique opportuniste derrière. La deuxième tendance qu'on voit, elle est liée à la sophistication des modes opératoires. Et donc, je vous parlais tout à l'heure en plaisantant qu'en 2016-2017, on était sur du bot et des trolls. Aujourd'hui, on voit des choses qui sont un peu plus élaborées. On voit notamment des modes opératoires qui mettent en avant des techniques comme le typo-squatting, qui est cette usurpation d'identité de sites internet. Ça, la campagne RRN Doppelganger, on l'a très bien démontré. On voit l'utilisation plus fréquente maintenant de l'intelligence artificielle pour la création de contenu, l'animation d'avatars de façon crédible, la saturation d'un débat. Voilà, c'est des choses qu'on voyait moins avant.
C'est plus les comptes Twitter avec un vague mot et ensuite quatre chiffres qui reprennent tous le même message.
Plus seulement aujourd'hui. Et la troisième tendance qu'on observe, c'est un recours accru à l'intermédiation. C'est-à-dire qu'on voit une recherche de probablement de grands acteurs stratégiques d'utiliser davantage de prestataires privés, de sous-traitants, des sociétés de marketing digital, de communication, de développement web, qui vont construire les infrastructures de désinformation et parfois même en alimenter en termes de contenu.
Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus efficaces ou parce que c'est
parce que c'est un moyen de se désilhouetter. C'est un moyen de se désilhouetter très probablement. Et ça permet d'être plus furtif dans les campagnes que l'on fait. Et donc pour nous, service d'investigation en ligne, peut-être de rendre ce travail un petit peu de caractérisation un peu plus compliqué. Voilà. Donc ça, c'est un peu les trois tendances qu'on observe. Si je reviens à votre question de départ, vous voyez, je suis pas malhonnête, je reviens à votre question sur la menace russe. Ce que je peux vous dire de façon assez assumée, c'est que cet acteur-là aujourd'hui, c'est le plus agressif dans le champ informationnel. Voilà. Sans faire honte à vos auditeurs, mais si je fais un tout petit peu de géopolitique, je pense qu'on est tous d'accord, vous et moi notamment, qu'on est dans un contexte de tension internationale qui est réel. Que ce contexte de tension internationale fait qu'on est dans un monde de géopolitique aujourd'hui. Et la géopolitique, c'est le rapport de force. Et le champ informationnel, c'est le champ d'expression naturelle du rapport de force. Et dans ce champ-là aujourd'hui, les acteurs russes sont les plus agressifs. Et ce que nous, on observe, c'est qu'ils sont probablement capables, et ils le sont, de faire des opérations très planifiées à partir d'infrastructures qui sont bien coordonnées, de dispositifs très structurés, sans oublier une capacité à saisir des opportunités, à agir de manière très opportuniste sur des faits d'actualité ou des thématiques qui sont assez attractives.
Mais là où c'est aussi intéressant, c'est que dans le cas russe, c'est particulièrement net. C'est là où ça marche bien, c'est que ça vient pas de Russie. C'est-à-dire, ça vient de Russie à l'origine, mais c'est ensuite relayé par des acteurs domestiques qui sont plus ou moins honnêtes là-dedans, plus ou moins duplices, plus ou moins dociles, etc. Et contre ces gens-là, vous avez pas de mandat. C'est-à-dire, c'est pas votre rôle, c'est pas de faire la police de la pensée sur les
Exactement.
Internautes français.
Surtout pas.
Donc là, voilà. Comment est-ce que vous gérez cette chose-là, qui est que vous avez un mandat qui est plutôt pour les puissances étrangères et leurs actions, et que en même temps, ce qui marche et les effecteurs, disons, les plus nets en France, c'est souvent des citoyens nationaux, consciemment ou inconsciemment, qui adhèrent à un narratif venu de l'étranger.
Alors, je vais essayer de vous faire une réponse honnête. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que l'intention qui est derrière ces acteurs de la menace, c'est pas de rester dans le virtuel. L'intention de ces acteurs, c'est de produire des effets dans la vie réelle. Soit en orientant, dans le cas d'une élection, le vote de citoyens, soit en attisant et en espérant provoquer des violences dans la rue sur des thématiques d'actualité, en les instrumentalisant, soit en essayant de produire des effets dans le champ économique parce qu'on va lancer une campagne de boycott de produits. Donc si, Alexandre, vous et moi, on est d'accord sur le fait que la finalité, c'est quand même à un moment donné de produire des effets dans la vie réelle, probablement que la meilleure réponse qu'on peut faire à cette menace-là, c'est d'abord, de révéler ces campagnes et de sensibiliser, informer le grand public. Et là, quand on est un service de l'État, dans un pays démocratique, en fait, on publie un rapport et on le livre à la sagacité, à l'analyse des spécialistes, des experts et du grand public qui font le choix de s'informer ou pas. Ça, c'est la première des choses. Et peut-être que la seconde chose, c'est que la réponse efficace, elle ne peut pas relever seulement de l'État. Et que probablement aujourd'hui, c'est tout un écosystème qu'il faut mobiliser sur ce sujet-là. Et ce n'est pas seulement l'État régalien. Et quand je dis tout un écosystème, c'est-à-dire qu'on est tous responsables de vérifier la source d'une information. On est tous responsables pour vérifier la façon dont cette information s'est propagée. On doit tous garder d'avoir un esprit critique pour analyser ce qu'on dit, est-ce que c'est factuel, sur quoi ça se base. Et donc on est tous responsables face à la manipulation de l'information. Et probablement que le premier rôle de l'État, c'est d'abord, à mon avis, d'une certaine manière, d'instruire le citoyen sur ce qu'est l'esprit critique. L'éducation nationale fait des choses fabuleuses en lien avec la culture, avec le monde des médias, public ou privé d'ailleurs, et qui essaye de travailler à l'éducation aux médias, à l'éducation à l'information. Et je pense que la vraie réponse, elle est là. C'est peut-être de faire en sorte de réarmer le citoyen, ouais, d'une certaine manière, sur ces enjeux informationnels.
Oui, oui. Bah, alors après, là, vous parlez à un prof du secondaire, donc je vois l'idée. En fait, je vois aussi assez bien la limite, parce que ça pose aussi la question fondamentalement des médias et de vos leviers d'action, parce que typiquement, quand j'avais des classes, les élèves ils s'informent pas sur lemonde.fr et soit dit en passant, la campagne RN ça pouvait bien les faire marrer, enfin ça n'avait aucune importance puisque évidemment qu'ils n'allaient pas sur lemonde.fr, ils allaient plutôt sur Snapchat et sur TikTok et sur toutes ces plateformes, ce qui pose donc la question de vos leviers. Par exemple vis-à-vis de ces acteurs-là, alors Snapchat encore, ça relève globalement du monde occidental. Par contre TikTok, typiquement, c'est un acteur chinois. Donc, autant quand il s'agit de l'écosystème Facebook, Twitter, c'est devenu beaucoup plus compliqué depuis quelques mois avec le changement de propriétaire, mais voilà, faire pression auprès de TikTok pour déplateformer des messages de manipulation de l'information, Encore quand il s'agit des Russes, c'est déjà, ça doit déjà pas être évident. Quand il s'agit de messages plutôt bénéfice chinois, ça doit être encore plus difficile. Donc la question, c'est comment est-ce que vous faites ? Quels sont vos leviers sur ces acteurs ? D'ailleurs, les Américains non plus, vous ne les maîtrisez pas, mais en tout cas, il peut y avoir une communauté d'intérêts relativement comprise et vous pouvez probablement travailler avec des partenaires américains. Il y a d'autres plateformes où ça doit être nettement plus compliqué, quoi.
Alors, excellente remarque, excellente question, Alexandre.
C'est gentil.
Pour vous répondre, Viginum n'a pas le pouvoir de faire fermer des comptes. Viginum n'a pas le pouvoir de faire fermer des chaînes Telegram. Viginum n'a pas le pouvoir de dire c'est vrai, c'est faux, et n'en le veut pas, ce pouvoir-là. En revanche, je vous parlais tout à l'heure qu'on travaille plein de partenaires interministériels dans le cadre de cette fameuse gouvernance. En revanche, il y a des entités dont c'est la mission. Et très récemment, en fin d'année dernière, on a signé une convention avec la plateforme Pharos, que vous devez connaître, qui elle est davantage sur la notion de contenu licite notamment. Et donc on peut être amené à faire des signalements, puisqu'aujourd'hui on est identifié comme signaleur de confiance à ce service qu'est Pharos, pour justement essayer d'agir sur les différentes plateformes, quelles que soient les plateformes. Donc vous posez une bonne question, qui est la limite de l'action globale de Viginum. Et je vous disais tout à l'heure que Viginum seul, ça n'a pas de sens en fait. On doit être dans un écosystème. Et pour moi, dans cet écosystème, il y a évidemment les services de l'État, du régalien, qui ont cette mission défensive de protection. Vous avez ensuite tous les ministères comme l'éducation nationale ou la culture qui, eux, vont avoir un rôle plutôt au titre de leur mandat premier, qui est celui de l'éducation médiale, l'information, de sensibilisation, d'information. Ça, je pense que ça, c'est vachement important. Vous avez ensuite un écosystème médiatique, public, privé, dont pour moi, ça doit être le rôle de faire le fact-checking, le rôle de la pédagogie et de l'explication. Ça me paraît assez important. Et après, vous avez tout le monde académique, le monde de la recherche scientifique, qui ont un rôle, à mon avis, à jouer pour peut-être, alors à la fois d'information du grand public aussi, en publiant des rapports, par exemple, mais aussi en proposant, pourquoi pas demain en open source, tout un tas d'outils qui peuvent permettre aux citoyens, aux internautes, d'avoir des choses pour vérifier la provenance d'un contenu, est-ce qu'on n'est pas en présence d'un bot sur une plateforme. Donc on est au début de quelque chose. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que tout ce qu'on fait est parfait et que c'est génial. Je vous disais tout à l'heure que je trouvais que le dispositif national de lutte contre les manipulations de l'information, il fonctionne, ça c'est vrai. Est-ce que maintenant il est perfectible ? Oui. Et je pense que l'ambition qu'on a, je vous rappelle, Viginum n'a pas encore 2 ans et demi d'existence et je note votre empressement à ce qu'on sache tout bien faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a encore énormément de travail à faire sur le sujet de la résilience de la société, de l'information du grand public, de l'éducation aux médias. Il y a des initiatives fabuleuses, comme je vous le disais, dans l'éducation nationale, auprès de la culture, auprès des médias. Et je pense que nous, on peut vraiment y contribuer. Moi, ça, j'y crois fortement. C'est vraiment une conviction qui est profonde pour moi. Donc, on va y travailler dans les 2 prochaines années. J'ai le souhait qu'on lance beaucoup d'initiatives, qu'on travaille avec ces acteurs-là. Et Viginum, qui est un service opérationnel, certes, et c'est son cœur de métier, je pense qu'il peut contribuer à des actions d'autres personnes en donnant de la matière, de la compréhension, de la connaissance, ce qui est finalement notre, j'allais dire, un joli label qu'on a.
Oui, même d'une manière plus générale, le fait que votre mandat s'arrête aux plateformes ouvertes et aux contenus ouverts et accessibles librement. Alors, en France, encore, si on peut poser des questions, je ne sais pas quel est le statut de Snapchat, par exemple, par rapport à ça, mais on a vu que, par exemple, en Afrique, et c'est assez vu beaucoup pour l'armée française, notamment dans le cadre de l'opération Barkhane, mais beaucoup de cette information-là passait par des chaînes WhatsApp, des chaînes Telegram, qui sont, ça c'est moi qui le dis, mais c'est tout le monde le sait, ont été largement infiltrées et manipulées par la Russie. Ça, on n'est probablement pas dans cet écosystème-là en France, encore. Enfin, je pense que ça a une importance moins large. En tout cas, c'est des réseaux plus fermés et qui ont une importance numérique moins large. Mais n'empêche que si ça se diffuse, y compris vers la France, ça pose la question de, au moment où, puisque vous vous arrêtez à ce qui est librement accessible, il y a forcément un très large angle mort qui peut éventuellement être amené à prendre de plus en plus d'importance.
Encore une fois, on ne travaille pas tout seul. On travaille avec des partenaires. Donc je parlais tout à l'heure de Pharos, il y en a d'autres. Et il est évident aujourd'hui que notre mandat qui est très clair et qui peut être perçu comme limitatif par certains, pour moi je le vois comme une immense force d'avoir ce cadre juridique et cet accompagnement éthique, c'est une force fabuleuse pour le service. Aujourd'hui on a d'autres partenaires interministériels qui ont d'autres mandats. Et ce que vous appelez un angle mort, je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas pour certains de mes partenaires. Donc on essaye d'avoir ce continuum très complémentaire, tant dans nos capacités que dans les chaînes de réponse. On essaye de coiffer le maximum d'angles morts, comme vous dites. Maintenant, Viginum, tout seul, bah, il a un mandat qui est clair, qui est un mandat défensif, et on essaie de faire des choses de manière, j'allais dire, en suivant scrupuleusement le mandat qui nous est donné. D'autres partenaires aujourd'hui peuvent aller un peu plus loin, peuvent voir d'autres choses, ils ont ce mandat pour le faire.
Enfin, et pour terminer, j'aurais aimé faire un peu de prospective, puisque là, il y a des échéances qui arrivent. Alors, il y a des élections européennes qui sont dans pas longtemps, ça c'est déjà une chose, puisque bon, à chaque élection, évidemment, on menace informationnelle. Le gros truc, c'est les JO, derrière, puisque vous en avez déjà parlé.
Il y a des JO, Alexandre, je ne me rappelle pas.
Il paraît, tout le monde part de Paris à cause de ça.
Il y a des JO, je vous confirme.
Non, mais c'est enfin, on va reparler des JO dans une seconde, mais qu'est-ce que vous voyez, disons, à l'horizon ? Puisque j'imagine que l'idée, c'est quand même d'anticiper un peu et de ne pas rester une fois que ça se déclenche pour avoir le temps de produire une analyse, il faut anticiper un peu en amont. C'est quoi les prochaines menaces, disons ?
Alors, je vais vous parler plutôt d'enjeux pour moi, plutôt que de menaces. Là, comme ça, de manière assez rapide et non préparée, bien sûr, j'ai trois enjeux. Je vois trois enjeux. Le premier, c'est un enjeu de protection. Et cet enjeu de protection, il est lié à l'engagement opérationnel, alors qu'on a évidemment au quotidien, mais qui va forcément se renforcer avec les élections européennes du 9 juin, et puis bien évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques de cet été. Et pourquoi je disais que c'est un enjeu pour nous qui est assez fort, cet enjeu de protection ? Parce que on est sur deux événements qui, dans le contexte géopolitique actuel, vont donner et aux élections et aux JO une teneur particulière, probablement les rendant encore plus attractifs que ces rendez-vous passés dans d'autres pays vis-à-vis de la menace informationnelle. Parce qu'aujourd'hui, pouvoir interférer dans une campagne électorale pour les européennes, dans le contexte Russie-Ukraine, c'est très intéressant pour des acteurs étrangers malveillants. Les Jeux Olympiques, c'est quand même une formidable vitrine pour des acteurs hostiles de dénigrer la France.
Et plutôt, surtout les Jeux Olympiques, c'est assez captivant parce que ça, c'est très large. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur le niveau politique. Je vous entendais, je ne sais plus où, parler des punaises de lit. Et la problématique des punaises de lit, il y a eu une sorte de psychose, ou en tout cas une menace, il y a eu des cinémas fermés, il y a eu des rames de train fermées, c'était il y a quelques mois maintenant. Et vous indiquiez que ça, c'était pas gratuit, ça relevait aussi de manipulation de l'information. Mais en parlant de ça, on voit très bien à quel point c'est large, quoi. Si les problèmes sanitaires, les problèmes de santé publique et d'entretien des espaces publics et privés, comme ça rentre dans le genre de truc qu'il faut que vous surveillez, puisque pour les JO, ça peut atteindre à l'image de la France, c'est large, quoi.
Alors, petite précision, Alexandre, je n'ai pas souvenir d'avoir évoqué publiquement le sujet des punaises de lit. Je me suis tenu assez éloigné de ce sujet, pour être honnête avec vous. En revanche, je sais que les médias en ont abondamment parlé, donc le service, non. On n'a rien travaillé, on n'a pas travaillé, j'allais dire, on n'a pas publié des choses dessus, pour être assez honnête. Et moi, je l'ai encore moins évoqué. En revanche, je vous disais que l'une des premières tendances qu'on voyait de la menace, c'était celle qu'elle n'était plus seulement liée aux élections, mais qu'elle touchait tout les champs du débat public sur tous les sujets. Donc là, vous avez raison, un sujet JO, c'est pas seulement un sujet politique, c'est un sujet économique, c'est un sujet sportif, c'est un sujet de société, c'est un sujet de rayonnement international. Et donc, de fait, quand vous avez près de 4 milliards de téléspectateurs, X milliers de journalistes dans le pays pour couvrir les événements sportifs, vous imaginez la caisse de résonance fabuleuse que ça donne à un sujet qui pourrait être instrumentalisé de façon malveillante. Donc oui, c'est un enjeu majeur. Tout le service va être mobilisé à 100% et sur les élections et sur les JO. On va essayer de pouvoir prévenir un maximum d'affaires, d'anticiper un maximum de modes opératoires. Donc voilà, et au-delà de Viginum, c'est une mobilisation, je peux vous dire, de tous les services de l'État, quel que soit leur rattachement. Tout le monde est aujourd'hui focalisé sur cette mission-là, qui est un enjeu majeur pour nous.
Et vous avez l'intention de publier plus régulièrement, plus fréquemment, enfin, vous voyez, dans un moment, parce que vous enquêtez en fait, et l'enquête c'est un temps. Ça prend du temps d'enquêter, de collecter, ensuite de mettre en forme et ensuite de publier. Mais là, si on est sur un truc particulièrement intense pendant 3 semaines, enfin, voire plus avec les Jeux Paralympiques derrière, vous avez l'intention d'intervenir plus régulièrement en faisant ce que vous faites, mais de manière plus, disons, plus au fil de l'eau? Ou est-ce que, vous, vu que vous êtes un service d'enquête, il va falloir de toute façon prendre un certain temps? Comment est-ce que vous envisagez ça, quoi?
Alors, il est clair que la mission de Viginum, ce n'est pas une mission d'être médiatisé. La mission de Viginum, c'est une mission, on est bien d'accord, opérationnelle, de faire de l'investigation en ligne et de pouvoir caractériser des phénomènes, des campagnes, des opérations, des modes opératoires.
Non, mais vous,
donc ça prend un temps.
Vous publiez, puisque,
non, ouais,
puisque vous publiez, il y a une dimension médiatique à ça aussi. Non,
je rejoins complètement là-dessus. Et donc, est-ce qu'on a pour intention ou ambition de publier davantage? Je vais vous dire, ça va être lié aussi un peu aux acteurs de la menace et à la façon dont nous, on peut apprécier les campagnes, et notamment leur degré de sévérité, de gravité, ou l'intentionnalité manifeste de jeter l'opprobre. Et donc, en fonction de cette appréciation, le service, à l'avenir, pourrait être amené à republier des rapports techniques sur les acteurs qu'on a pu mentionner tout à l'heure, mais aussi ça peut être sur d'autres, en fonction des thématiques qu'on voit. Donc oui, à l'avenir, c'est possible. Maintenant, je n'ai aucun plan de publication. Je ne suis pas une maison d'édition de rapports techniques, pour être franc avec vous. Donc je n'ai pas 12 publications déjà prévues, puis j'attends de feuilletonner. Non, ça, je n'ai pas ça. Ça va énormément dépendre de l'actualité, de la gravité des campagnes et des agressions qu'on voit. Mais oui, ça peut être possible, oui.
Je vous ai coupé dans. Vous aviez encore fait un plan en trois parties et vous en étiez.
Sur les enjeux.
Ouais,
je suis désolé pour les plans en trois parties. J'ai pas fait Sciences Po pourtant, je suis navré.
Je me suis laissé dire que Sciences Po c'était plutôt des plans en deux parties.
Mais paraît-il, mais ça évolue, hein, vous savez.
Il paraît. C'est le premier pilier, c'est le pilier protection.
Ouais, le deuxième pilier, pour moi, je vois bien un enjeu de régulation. Je pense que vous savez qu'on va avoir la mise en œuvre d'un règlement européen qui s'appelle le DSA, qui est le règlement européen pour les services numériques, et donc qui impose un certain nombre d'obligations aux opérateurs de plateformes en ligne, notamment pour celles qui peuvent présenter un risque systémique du point de vue du débat. Donc je pense que pour nous, on va suivre de très près cette mise en œuvre. On va voir dans quelle mesure, au profit de la Commission européenne et puis surtout de l'autorité nationale qui sera désignée en France comme étant le coordonnateur, vous savez, de la mise en œuvre du DSA. Donc il y a de fortes chances que ce soit l'ARCOM, donc on le souhaite. Et donc lorsque ce coordinateur national sera nommé, je pense que nous, on aura vraiment un rôle à leur profit de pouvoir apporter un peu cette expertise technique. Donc je pense qu'il y a un sujet de régulation pour moi sur les deux années à venir. Et mon troisième sujet, mais on l'a déjà largement abordé, Alexandre, c'est le sujet de la sensibilisation, de l'information du grand public, de la résilience de la société de manière plus générale. Et encore une fois, nous, tout en restant dans notre mandat, dans notre mission, on s'intéresse beaucoup à comment est-ce qu'on peut contribuer à notre mesure, avec nos moyens, à ce défi de la manipulation de l'information vis-à-vis en fait de l'opinion publique, de tous les publics, y compris les plus jeunes. Comment on peut mieux les informer, mieux les sensibiliser à cette menace. Donc voilà, moi je vois un enjeu, ce dernier enjeu qui pour moi est un enjeu majeur, hein, qui est un enjeu de société en fait.
Merci beaucoup Marc-Antoine Briand.
Merci Alexandre et merci à vos internautes.
Et je rappelais que donc vos productions, est-ce qu'on peut les retrouver sur le site de Viginum?
Alors sur le site du SGDSN, vous pouvez retrouver effectivement les rapports sur RRN, donc Doppelganger, de juin 2023, et puis plus récemment Portal Combat, qu'on a publié, y compris une version en russe, pour permettre à tout le monde de pouvoir vraiment mieux comprendre ce genre de phénomène.
C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme des appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.